Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Alexandre Niungeko.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Vous êtes bien sûr la radio Nzamba Gate Kakawe. Bienvenue dans l'actualité de ce samedi 14 mai 2022. Voici d'abord les titres. Que s'est-il passé lors de l'attaque du 3 mai dernier contre les militaires burundais du 61e bataillon Atimis en Somalie? L'armée burundaise a ouvert une enquête pour connaître la vérité sur cette attaque des Al-Shabaab qui aurait fait une dizaine de morts côté burundais selon le bilan officiel. Des précisions dans ce journal. Une décision qui fait grincer les dents chez les conducteurs de vélo-taxi dans la province de Lomongue. Ces derniers sont contraints de donner des contributions pour la construction du bureau provincial. Ils réclament l'annulation de la mesure. Dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous irons à la rencontre du Burundais récemment arrivé au camp de réfugiés de Nakival. Nous sommes en Ouganda. Ils nous racontent le calvaire qu'ils ont vécu avant de fuir. Depuis avril dernier, ils sont autour de 200 à avoir fui le Burundi en provenance des provinces du nord du pays. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Nous sommes le 14 mai. Cela fait 7 ans que des médias indépendants ont été attaqués et détruits par des forces de sécurité. C'était en 2015. Au lendemain de la tentative du putsch du 13 mai 2015, 7 ans après, la justice burundaise n'a rien fait pour que la vérité soit connue. Regret exprimé par Innocent Mohosi, directeur de télévision Renaissance, un des 4 médias incendiés. Malgré cela, une centaine de journalistes burundais partis en exil suite à des attaques contre certains médias indépendants se sont organisés pour continuer à informer les Burundais. Innocent Mohosi fait toutefois remarquer que ces journalistes travaillent dans des conditions difficiles. On l'écoute.
Nous sommes à la 7e année depuis l'attaque dans la nuit du 13 au 14 mai par la police et l'armée nationale qui ont attaqué les 4 médias indépendants du Burundi. Ils ont commencé par Télé Renaissance, la RPA, Bonesha, puis ont terminé par Isanganiro. Ça a été une entreprise de destruction dans le cas de Télé Renaissance et de la RPA où ils ont même mis le feu. Nous avons été attaqués à coups de mitrailleuses, de lance-roquettes, de grenades et puis ils ont incendié. La RPA a complètement été calcinée. Ça n'a pas été le cas de Télé-Renaissance parce que le bâtiment est totalement en béton. Donc, il y a juste ce qui était dans le parking qui a brûlé, qui a été détruit. Et puis, Sanganiro et Bonesha ont pu reprendre les activités parce qu'encore une fois, à la suite de cette attaque-là, le procureur général de la République, quand ils se sont rendus compte qu'on pouvait, tant bien que mal, réactiver nos activités dans nos bâtiments, a sorti une décision d'interdiction d'accès à ces bâtiments. Prétendument pour raison d'enquête, alors que c'est l'État lui-même qui nous a attaqués. Donc depuis ce jour-là, le bâtiment de la RPA est toujours dans l'État où il était. Télé-Renaissance, c'est pareil, sauf que pour le Télé-Renaissance qui n'avait pas été très touché par l'incendie, tout ce qui était dedans comme matériel, du matériel de diffusion, des émetteurs, des régies, radio et TV, les archives, etc., beaucoup, beaucoup de choses qui étaient encore à l'intérieur, du matériel neuf notamment qui n'était pas encore en exploitation, a été systématiquement pillé. La maison a été proprement nettoyée, alors qu'elle était sous la garde de la police depuis cette décision du procureur général de la République. Une centaine de journalistes sont donc partis en exil pour sauver leur vie, mais aussi pour sauver leur métier. Et depuis ce temps-là, nous travaillons sur les réseaux sociaux. La presse à l'intérieur du Burundi est une presse de survie qui ne peut pas toucher les questions vraiment sensibles, qui ne peut pas toucher sur les questions qui préoccupent fondamentalement les Burundais. Les gens font le service minimum dans les limites qui leur sont fixées. Mais la liberté de presse n'est pas morte pour autant parce que les médias, les journalistes qui sont partis en exil ont pu continuer à travailler et à informer les Burundais via les réseaux sociaux, via les médias numériques. Ça limite l'audience parce qu'il y a beaucoup de Burundais qui n'ont pas accès à Internet, mais en même temps, ça permet malgré tout à ce que l'information continue à circuler grâce à la résistance de ceux-là qui sont partis en exil et qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles.
C'était Innocent Mohosi, il est directeur de la télévision Renaissance. Que s'est-il passé au sein du commandement du 61e bataillon de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS? Le mystère plane toujours autour de l'attaque du 3 mai 2022 contre le poste de commandement des militaires burundais situé dans la région de Seif Baraf. Une dizaine de jours après, une enquête a été ouverte selon des sources militaires. Le major Nimbona Emmanuel, alias Kibosi, commandant second, a déjà comparu devant le commandant du contingent burundais selon la même source. Il est accusé d'avoir trahi ses collègues d'armes lors de cette attaque. Le point avec Benny Axelakan.
Cet officier est accusé par certains d'être rescapé de cette attaque qui a coûté la vie à 39 militaires, dont le commandant du 61e bataillon de l'ATMIS, d'avoir révolté une grande partie des militaires lors de l'attaque. Selon nos sources en Somalie, Major Nimbona a comparu jeudi dernier au bureau du commandant contingent général de brigade Ndidigie Eli, alias Muzinga, situé dans la région de Joal, pour les premières enquêtes. Le major Nimbona Emmanuel est accusé d'avoir défié le commandement de son supérieur, le lieutenant-colonel Ndaïla Gidje, alias Kajeke. Certains des rescapés de cette attaque confirment qu'il a fui les combats avec 110 militaires sur 161 qui étaient sur cette position située dans la région de Selbaraf. C'est ainsi que les rebelles sont parvenus à déloger le reste des militaires après avoir tiré sur le commandant qu'ils auraient achevé dès leur arrivée à l'intérieur du PC. Selon nos sources en Somalie, ils y auraient passé quelque temps avant de partir avec toutes les armes qu'ils ont trouvées sur place. Selon des propos des habitants de la région de Selbaraf, qui se sont confiés à la télévision anglaise BBC, ces éléments de El-Shabaab auraient infiltré ces militaires pendant un moment avant cette attaque. D'autres sources affirment que l'attaque a été déclenchée par des explosions des bombes qui étaient installées dans une voiture qui avait été déposée par des civils somaliens le lendemain de l'attaque. Selon des militaires, le propriétaire de cette voiture était parmi ceux qui avaient l'habitude de venir chercher du carburant dans le PC. Jusqu'à maintenant, le contingent burundais n'a pas encore récupéré cette zone conquise par les El-Shabaab.
Merci Benny Axelan. On en vient à cette grogne chez le conducteur de taxi-vélo de la province de Lomongue. C'est suite à la décision du gouverneur de cette province qui leur exige de payer une somme de 5000 francs burundais pour la construction du bâtiment du bureau communal. Ces taxi-vélos sont révoltés par cette décision du gouverneur. Il faut savoir qu'ils payent souvent des contributions sans recevoir des justificatifs en retour. Les précisions de Trifine Kaniwabo.
Lors d'une réunion qu'il a animée à l'intention des conducteurs de taxi-vélo de sa province, Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Lumonge, a exigé qu'ils vont payer une contribution de 5000 francs burundais chacun pour la construction des bureaux de cette province. Comme en témoigne un de taxi-vélo qui s'est entretenu avec Radio Inzamba, cette décision vient plonger dans la misère une population déjà appauvrie.
Ici à Lumonge, chaque course est fixé à 200 francs burundais. Imaginez le nombre de courses qu'il nous faut pour atteindre les 5000 francs burundais. Nous n'avons pas assez d'argent pour contribuer tout le temps. Dernièrement, nous avons donné une contribution pour la même cause sans recevoir de quittance qui atteste notre participation. Le gouverneur a exigé que nous soyons enregistrés pour qu'il nous surveille et sache qui a contribué et qui ne l'a pas fait, chose que nous n'avons pas appréciée.
Cette contribution s'ajoute aux autres qu'ils avaient payés, mais sans être enregistrés ni recevoir un justificatif qui atteste leur paiement. Cette somme était collectée par leurs représentants.
Nous donnons des contributions à chaque fois qu'on nous arrête au coin de la rue. Mais où est-ce qu'ils mettent cet argent? Nous ne refusons pas de contribuer pour la chose publique. Seulement, nous voyons que les travaux sont avancés. En plus, on nous avait parlé d'une construction à trois niveaux à chaque fois qu'ils nous demandaient de contribuer. Curieusement, c'est un bâtiment à un seul niveau qu'ils ont construit. Ceux qui gouvernent le pays devraient suivre de près la gestion de la province Lomongue, car il y a anguille sous roche.
Le dernier recensement des taxis-vélos effectué par l'association des taxis-vélos dans cette province de Lomongue atteste que plus de 2000 taxis-vélos exercent ce métier dans cette province. La radio Inzamba, nous avons essayé de contacter le gouverneur de la province Lomongue pour qu'il nous éclaire sur la situation, mais sans succès.
Autre sujet de ce journal, la suspension du chef de la colline Tcharatsi en commune Kabarole de ses fonctions. La décision a été prise ce vendredi par Berkimas Nsagouye, administrateur de cette commune. Il l'accuse du non-respect de la mise en application des mesures prises à propos de la bonne gestion de la coopérative Sangoué dont il était responsable. La colline Tcharatsi est provisoirement dirigée par celui qui était son adjoint. Les détails avec Joséphine Jones. Hunziman.
Comme c'est mentionné dans le document sorti et signé ce vendredi par l'administrateur de la commune Kabarore portant suspension de Nathanael Starehe de ses fonctions de chef de colline Tcharati, il accuse de deux choses. Il s'agit du non-respect de la mise en application des mesures prises par le même administrateur dans l'optique de la bonne gestion des fonds de la coopérative dont il était jusque-là président. Ici, il lui a intimé l'ordre de retourner en dehors deux semaines 7 millions de francs qu'il avait décaissés sans consulter personne sur le compte de la coopérative Sangwe dont il était responsable. Un montant dont la destination n'avait pas non plus été signifié aux membres de la dite coopérative. Mais depuis un mois et demi, il n'avait pas encore remis l'argent. Berkema Sensagouye accuse également son chef de colline du non-encadrement de la population suite au manque du temps suffisant dû à une multitude de fonctions qu'il assume. Pour le moment, il a été désigné Emmanuel Ndouimana, qui était son adjoint, d'assurer l'intérim en attendant la décision finale qui sortira de la réunion du conseil communal qui aura lieu au mois de juin prochain.
Inzamba.
Suite de cette édition, avec le manque criant d'eau potable au camp des réfugiés de Zaleka au Malawi, parmi les occupants de ce camp figurent plus de 10 000 Burundais. Ils font savoir qu'ils viennent de passer plus d'une année dans cette situation. Dans certaines zones, les robinets ont été fermés. L'une des conséquences de ce manque d'eau potable est l'apparition des maladies dues à la consommation de l'eau polluée chez certains enfants. Ces réfugiés demandent au HCRL, au Haut Commissariat pour les réfugiés, de résoudre ce problème dans les meilleurs délais pour éviter le pire. Vanessa Mouhitek.
Les réfugiés du camp de Zaleka disent qu'ils viennent de passer plus d'une année sans avoir de l'eau potable. Dans certaines zones, les points d'eau ne fonctionnent plus car les robinets ont été fermés. Les enfants sont devenus maladifs parce qu'ils boivent de l'eau non potable. Écoutez le témoignage d'un de ces réfugiés.
L'accès à l'eau potable est devenu problématique ici au camp. Dans certaines zones, comme celle de Katuza, tous les points d'eau ont été fermés. Les enfants sont devenus maladifs parce qu'ils boivent de l'eau impropre. Ils puisent de l'eau dans des marigots et n'hésitent pas à la boire. Nous sommes vraiment dans une situation critique.
Les enfants sont également exposés à toutes sortes d'accidents, dont la noyade. Quand ils sont à la recherche de l'eau, on enregistre chaque année au moins 5 enfants qui meurent noyés.
Il y en a qui vont faire la lessive dans des marais. Les enfants qui y vont pour se laver sont souvent victimes de noyades. Aucune année ne passe sans enregistrer au moins 5 enfants morts noyés. Nous demandons au gouvernement et au HCR de s'asseoir ensemble pour chercher une solution à ce problème.
Vous saurez que jusqu'au mois de janvier de cette année, le camp de Zaleka abritait 48 000 réfugiés venus du Burundi, du Rwanda et de la République du Congo. Les Burundais, ils sont estimés à 11 000. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas pu joindre par téléphone Hilary Namakwa, qui représente le HCIA au camp de Zaleka. Elle aurait pu informer l'opinion sur de probables solutions qu'ils envisagent apporter au problème de manque d'eau dans son camp de réfugiés.
Place à l'athlétisme avec cette victoire de Francine et Léon Saba au meeting de Diamond League de Doha au Qatar. C'était hier vendredi. Elle a réalisé la meilleure performance de cette année sur 3000 mètres. Une victoire que cette athlète burundaise a décrochée en parcourant cette distance en 8 minutes 37 secondes 70 tierces. Et comme chaque samedi, nous vous proposons le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous nous rendons dans le camp des réfugiés de Nakival en Ouganda. Des Burundais continuent d'arriver dans son camp. Il déclare qu'il fit des persécutions de la part des jeunes de la Ligue du Parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les détails avec Jean-Marie Ndabashinzi.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Ijwiya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Ils sont autour de 200 Burundais demandeurs d'asile. Ils sont arrivés en Ouganda, dans le camp de Nakival, depuis le début du mois d'avril cette année, malgré plusieurs appels du gouvernement burundais qui demandent aux réfugiés de regagner la patrie. Les Imbonerakure gonflent le nombre de nouveaux réfugiés qui arrivent dans les pays voisins. Que faut-il faire pour limiter ce phénomène et promouvoir le retour des réfugiés? Les réponses d'Assaut mini-magazine de ce samedi 14 mai 2022 à la présentation Jean-Marie Ndabashinze. Bienvenue.
Ariko ninana uyu munsi bwije ejo buracya.
Ces demandeurs d'asile viennent majoritairement des provinces du nord du Burundi. Ils disent qu'ils fuient des répressions des jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD, lesquels ciblent les membres de l'opposition, mais aussi de simples citoyens. Suivez certains d'entre eux au micro de nos collègues de la radio publique africaine.
Moi, je suis ici depuis 2 semaines. Je suis venu de la commune des provinces Ngozi. Là-bas, si tu n'es pas membre du parti au pouvoir, tu es exposé à toutes sortes de problèmes. Je faisais du commerce, mais je me faisais souvent voler. C'était un plan des Imbonerakure qui se déguisaient et venaient nous cambrioler.
Ukagira ngo nabasuma babyibye kandi ari bariya baguciye ku ruhande kuko babonye utari kumwe nabo.
Je suis ici depuis 3 semaines. J'avais un bistrot, mais les Imbonerakure venaient et buvaient. J'avais un cahier dans lequel je notais toutes leurs consommations, mais quand venait le moment de leur demander de régulariser les factures, ils me taxaient d'ennemis. J'ai été très souvent victime de leurs persécutions, des persécutions qui sont même allées jusqu'à l'emprisonnement. C'est comme ça que mon capital a fondu et je me suis dit qu'il était temps que je sauve ma vie.
Moi,
je suis ici depuis 2 semaines. Je suis venu de la commune des provinces Ngozi. Là-bas, si tu n'es pas membre du parti au pouvoir, tu es exposé à toutes sortes de problèmes. Je faisais du commerce, mais je me faisais souvent voler. C'était un plan des Imbonerakure qui se déguisaient et venaient nous cambrioler.
Ukagira ngo nabasuma babyibye kandi ari bariya baguciye ku ruhande kuko babonye utari kumwe nabo.
Les témoignages de ces Burundais qui ont récemment fui le pays remettent en question les affirmations du gouvernement burundais qui demande aux réfugiés de regagner la patrie car la paix et la sécurité ont été retrouvées sur l'ensemble du territoire. Des propos qui restent sur les lèvres des autorités burundaises, à commencer par le chef de l'État. Pour l'ancien vice-président du pays, Frédéric Bamvuginyumvira, si les autorités burundaises souhaitent sérieusement promouvoir le retour des réfugiés, elles doivent maîtriser les Imbonerakure et garantir que les abus commis par ces derniers seront punis. Suivez-le, il s'est entretenu avec nos collègues de la télévision Renaissance.
Lorsqu'il y a la paix, tu n'appelles pas aux Burundais de rentrer. Les Burundais partout ils sont, ils sentent cette paix. Aujourd'hui, cette insécurité mêlée à cette faim, est-ce qu'aujourd'hui, on peut franchement aller dire aux Burundais, eh bien, rentrez. Et ceux qui sont rentrés, ils sont devenus quoi? Il y en a qui ont été tués, il y en a qui sont retournés en exil. Alors, s'il y avait une véritable politique de la paix, de la sécurité, les Burundais rentreraient d'eux-mêmes. Ils n'auraient pas besoin de l'appel du président de la République, non. Mais par contre, si vous constatez qu'il y a des Burundais qui fuient plutôt au pays, ça veut dire que ce sont tous ces enseignements, ces entraînements des jeunes qui se font de jour comme de nuit. Ça veut dire que si le CNDD-FDD a distribué les armes, passe à l'entraînement, passe aux enseignements publics pour pratiquement désigner l'ennemi. L'ennemi, c'est celui-là qui n'est pas du CNDD-FDD, puisque le CNDD-FDD, c'est le pays. Celui qui n'est pas du CNDD-FDD n'est pas du Burundi, n'est pas citoyen burundais. Il faut le pointer du doigt, il faut le tuer.
Depuis ce temps, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo accueillent des réfugiés du Burundi. Si la transition politique de l'année dernière avait fait naître l'espoir que davantage les réfugiés pourraient rentrer chez eux, ces pays comptent encore plus de 3000 réfugiés en 2022, selon les chiffres fournis par le Haut Commissariat des réfugiés, HCR en sigle. C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Jean-Marie Ndabashinze était à la présentation. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci Jean-Marie Rovi de la presse pour clore cette édition et nous est présentée par Georges Mimegna.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse que j'ai le plaisir de vous présenter. Nous commençons par le journal SOS Média qui écrit dans ses colonnes que le président Evariste Ndayishimiye affirme être impliqué dans la détention du docteur Christophe Sahabo. Ce journal dit que c'est ce mardi, lors de sa toute première conférence de presse, que le président Ndayishimiye Evariste avait indiqué par rapport à ce dossier que l'État est l'actionnaire principal de la clinique et qu'il a au suiteur dont le docteur Christophe Sahabo était administrateur et directeur général jusqu'à son arrestation début avril dernier. Lors de la conférence de presse, le président de la République n'a pas attendu que les journalistes lui posent des questions sur le dossier. S'exprimant à langue nationale, le Kirundi, il avait donné un éclaircissement sur la position du gouvernement burundais dans cette affaire, que personne d'autre parmi les autorités n'avait jusque-là évoqué. Il a dit, je cite, « Moi, j'ai dit qu'il faut chercher l'argent du pays, les actions doivent générer des bénéfices afin de les utiliser dans les besoins du pays. Si j'étais procuré, je ferais de même. » Fin de citation. À ceux-là qui disent que c'est lui qui détient le docteur Sahabo en prison, il s'est exclamé avant de dire que c'est en quelque sorte vrai. Expliqua, je cite encore, « Je me suis décidé à retrouver partout où est caché l'argent du gouvernement. » Fin de citation. Le journal SOS Media poursuit en disant que le président Ndayishimiye a par contre fustigé l'idée de ceux qui disent que le docteur Sahabo est victime de son appartenance ethnique dans ce dossier. Toujours dans le domaine de la justice, nous lisons dans le journal ABP Info que le président Evariste Ndayishimiye invite les magistrats nouvellement nommés par décret à œuvrer pour une justice pour tous. C'était ce vendredi dans une réunion de sécurité tenue à huis clos à l'intention des hauts cadres de la sécurité publique, de la justice, du service national des renseignements et des gouverneurs de province. Le chef de l'État a appelé une fois de plus ces magistrats nommés dans le secteur de la sécurité à s'impliquer pour le changement de comportement et de mentalité pour que tous les dossiers pendants et en instance judiciaire soient vides au plus vite, selon toujours le journal ABP Info. Et dans la suite de cette revue de presse, les résultats du renseignement des deux roues à usage non lucratif sont annulés à Mairie de Bujumbura, titre le journal Iwacu. Ce journal écrit que le ministre de l'Intérieur, Gervais de la Kobucha, a effectivement annulé les résultats le 12 mai après avoir mis en doute le nombre des engins à enregistrer. Il a demandé à l'administration municipale à refaire le recensement avec plus de rigueur. Selon les résultats, 1813 motos, 5874 mobilettes et 13711 vélos à usage non lucratif ont été enregistrés. Le ministre de la Kobucha a estimé que ce nombre était trop élevé. Il pense que ceux qui font le transport rémunéré se seraient aussi fait enregistrer par tricherie. Et pour boucler cette revue de presse, le journal Watch a eu une interview exclusive avec Irvine Florial Morame, présidente du jury de Miss Burundi 2022. Plus d'un avait crié au scandale et avait qualifié son jury de corrompu et de subjectif après l'élection de Miss Kelly Ngaruko. La présidente du jury s'est expliquée en disant que les résultats n'ont jamais contenté tout le monde. Elle a tenu à préciser qu'une compétition, quelle que soit de beauté, sport ou autre, ne se remporte pas parce qu'on a mobilisé un plus grand nombre de fans, mais qu'elle se remporte sur base des critères de sélection. Irvine Florial Morame a ajouté que le jury qu'elle a dirigé assume la décision prise que Miss Kelly Ngaruko est bel et bien Miss Burundi 2022 conformément aux critères fixés pour la sélection 2022. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci pour l'avoir suivi.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Merci Georges pour cette revue de la presse et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous toutes, chères auditrices, à tous, chers auditeurs de la radio Inzamba, pour votre fidélité et votre attention. Excellent week-end à tous. Au revoir et à la prochaine.